Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre de notre série sur Napoléon Ier et l'Empire, il faudrait peut-être se préoccuper de l'édition napoléonienne. Cette période historique, le personnage de Napoléon Bonaparte et les personnages de son entourage génèrent un nombre de publications absolument phénoménal. Dans la quantité, il y en a des bons, des moins bons, des intéressants, des moins intéressants. Il y a des livres savants et des livres de grande diffusion. Et dans ce travail de recherche sérieuse, la Fondation Napoléon fait un énorme effort de rassemblement d'archives, d'informations et de diffusion de cette information. Thierry Lenz, vous êtes le directeur de la Fondation Napoléon. Actuellement, cette fondation publie notamment deux ouvrages principaux. D'une part, elle continue la publication de la correspondance de Napoléon et d'autre part, à titre un peu plus personnel, vous dirigez le fameux dictionnaire des institutions du consulat et de l'Empire. Pourriez-vous nous parler un peu plus profondément de ces deux publications ?
Commençons par la plus importante, qui est celle de la Fondation Napoléon, qui est donc la publication de la correspondance générale de Napoléon Ier, qui est donc une nouvelle édition de ce qui avait été publié sous le Second Empire, mais quelque chose que nous avons repris à zéro. Donc en nous disant au départ, si nous ne savions pas où sont les lettres de Napoléon, et si nous ne savions pas combien il y en a, qu'est-ce qu'on ferait ? Donc on a essayé de le faire et on a réussi à le faire, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à la tête d'un ensemble de 36 000 lettres de Napoléon à peu près, qui vont être publiées en 13 volumes probablement par les éditions Fayard. Alors, nous avons déjà publié 4 volumes. Le 5e sort en novembre 2008, donc prochainement, au moment où nous enregistrons. Et nous devrions normalement continuer maintenant au rythme de 2 volumes par an, ce qui devrait nous amener à une fin de publication, disons, dans le courant de l'année 2012. Alors c'est une publication que nous avons voulu scientifique, donc il y a un comité scientifique qui dirige la publication et ce comité est présidé par Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut, et puis il y a aussi des collaborateurs qui nous aident beaucoup, et je voudrais en dire deux mots parce que ce sont des Napoléoniens qui vivent la dernière grande aventure napoléonienne. Ce sont des amoureux de l'histoire de l'Empire que nous avons conviés à nous rejoindre, quel que soit leur niveau, qu'ils soient universitaire, enfin, ou de formation universitaire ou non, ce que nous appelons, nous, les membres correspondants de notre comité, qui sont aujourd'hui à peu près une centaine de personnes qui bénévolement viennent nous aider. Ils sont bien sûr encadrés par des historiens un petit peu plus chevronnés, mais ils font un travail énorme et c'est bien grâce à eux que nous réussissons maintenant à publier.
Deux questions. 36 000 lettres, c'est énorme. Donc cet homme d'action écrivait énormément.
Oui, alors heureusement pour nous, il n'écrivait pas tout, puisqu'il avait des secrétaires qui écrivaient à sa place. Il avait une écriture absolument indéchiffrable. Mais je dirais que c'est le mode de communication de l'ordre de l'époque. Enfonçant des portes ouvertes. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet. Donc on écrit.
Il dictait ?
Alors il dictait, ou alors on peut penser quand même que les secrétaires étaient très habitués au style de Napoléon et qu'il émettait une ou deux idées, dit à un tel de faire ceci, et le secrétaire était capable de lui rédiger ensuite une lettre. Mais il y a évidemment des lettres sur lesquelles il a pris grand soin de bien les rédiger, de bien mettre ses idées en forme. Elles sont au fond assez nombreuses, notamment en matière diplomatique, où sans doute les services du ministère intervenaient. Mais je dirais que c'était le travail normal, habituel d'un chef d'État à ce moment-là, c'était d'écrire. On a par exemple une seule journée où, en 1811, où il écrit 6 fois dans la journée au ministre des Affaires étrangères. Tout simplement parce qu'il ne peut pas lui téléphoner. Enfin, c'est très exactement ça qui se passe. Donc à chaque fois, il a sans doute oublié de lui poser telle ou telle question. Donc on refait une lettre. Mais Mais vous dites 36 000, c'est beaucoup, mais je pense que nous n'aurons pas tout. C'est-à-dire qu'on peut, on peut imaginer qu'il y en a encore 10 ou 15 000 de plus qui ou ont disparu, ou sont en main privée et on ne les a pas eus. Je dirais que tout ce qui est de la correspondance officielle du chef de l'État, ça est récupérable, je dirais, assez facilement, puisqu'il y a les minutes de la secrétaire d'État qui sont pour nous très très importantes, qui sont donc des copies de toutes les lettres qui ont été envoyées.
C'était ma seconde question, en quelque sorte. Est-ce que vous amalgamez des correspondances officielles, gouvernementales, avec des correspondances un peu plus privées?
Oui, bien sûr, et c'est ce qui fait un peu le charme de cette publication. Les lettres sont présentées de façon chronologique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans la même journée une lettre à un ministre et puis une lettre d'amour à Joséphine, suivie de quelques considérations sur l'art de la guerre, puis sur les finances et ainsi de suite. Ça montre un petit peu les problèmes auxquels est confronté un chef d'État et qui ne l'oblige pas forcément, et on en a la preuve dans la période actuelle, à mettre de côté sa vie sentimentale et sa vie personnelle.
Je voudrais ajouter que ça a l'air anodin et tout à fait naturel ce que Thierry Lenz raconte, mais c'est la seule grande aventure éditoriale à ma connaissance qui soit en cours aujourd'hui, cette publication de la correspondance de Napoléon. Puis d'abord, c'est aussi la première publication scientifique de la correspondance, parce qu'elle est reprise en partie de la correspondance générale publiée sous le Second Empire sur ordre de Napoléon III, qui était une publication très politique, où un certain nombre de lettres avaient été expurgées ou supprimées, sans parler des lettres qui ont été retrouvées depuis. Il y a, je crois, près d'un quart des lettres qui sont inédites ou publiées pour la première fois in extenso. Ça, c'est un premier point. Donc il y a vraiment un regard, je dirais, un regard critique de l'historien par rapport à ces lettres. Et le deuxième point, qui va dans le même sens, c'est que, quels que soient les membres, les honorables et passionnés membres correspondants de cette publication, ils ont tous effectué un travail d'appareil critique, de notes, qui est tout à fait considérable, qui est tout à fait extraordinaire. Bon, à ma connaissance, depuis les grandes publications philosophiques de Vrin, qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années, encore une fois, il n'y a pas d'autre aventure éditoriale de cette ampleur, de cette importance et de cette rigueur scientifique en France depuis 10 ans.
Merci Emmanuel de Varesquel de cette remarque. Deuxième publication dans le cadre de la Fondation, c'est ce fameux dictionnaire des institutions du Consulat et de l'Empire qui a d'ailleurs un sous-titre assez long.
Oui, alors en réalité, c'est le titre lui-même qui a été évidemment choisi par l'éditeur, qui est donc « Quand Napoléon a inventé la France ». Mais le titre donné par les auteurs, c'est « Dictionnaire des institutions politiques, administratives et de cour du Consulat et de l'Empire ». C'est vrai que ça se vend beaucoup moins bien que « Quand Napoléon a inventé la France ». Mais c'est un dictionnaire, je voudrais quand même préciser qu'il ne s'agit pas d'un travail de la Fondation Napoléon, mais d'un travail
personnel,
donc enfin d'une équipe en réalité, nous, 4 personnes. Nous avons souvent été confrontés dans nos travaux, parce que les 4 personnes qui ont participé, c'est-à-dire Pierre Branda, historien de l'économie, Pierre-François Pinault, historien des finances, Clémence Zachary, spécialiste d'histoire du droit, et moi-même, spécialiste de rien, dans nos travaux d'historien, où nous travaillons beaucoup sur les choses administratives et politiques, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas d'outils de travail, alors que nous avons une quantité d'outils de travail infinis en histoire napoléonienne, il n'y en avait aucun qui parlait d'administration. Alors il y avait le livre de Jacques Gottschaux sur les institutions, etc., mais au fond, et je suis presque désolé d'avoir à le dire, plus on a vérifié les informations de Gottschaux et plus on s'est rendu compte qu'elles étaient fausses, donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc on a décidé de faire un dictionnaire qui disait quand ont été créées les institutions, à quoi elles servaient, comment elles étaient organisées. Nous nous sommes interdits d'en faire l'histoire, parce que ça se retrouve parfois dans le dictionnaire Napoléon pour les grandes institutions. Donc on a à peu près 830 entrées qui vont d'archichancelier ou même d'empereur, de statut de l'empereur, jusqu'à garde digue des départements de la Méditerranée et de l'Ombronne. Donc c'est un outil de travail qui en tout cas nous sera utile à nous, mais je pense qu'il peut être utile à d'autres aussi.
Dans ces années de bicentenaire de l'Empire, il y a pléthore de nouvelles publications sur cette période, mais dans le paysage éditorial, vous avez retenu en particulier 2 ouvrages qui vous ont enthousiasmé. C'est celui de Pierre Branda sur Napoléon et l'argent et celui d'Emmanuel de Varesquiel, mais je pense que M. de Varesquiel nous parlera lui-même de son ouvrage sur les 100 jours. Voulez-vous nous parler un peu du travail de Pierre Brandat ?
Oui, alors nous avons eu l'occasion dans une autre de nos séquences d'en parler, mais Pierre Brandat est dans notre petit monde des historiens napoléoniens une personnalité qui est au carrefour de deux spécialités. L'économie, parce que sa vraie formation est une formation d'économie, et puis il est amoureux d'histoire napoléonienne. Et il se trouve que Pierre Brandat s'est toujours intéressé à la collection de documents, de chiffres sur cette époque-là, et que par hasard, il y a quelques années, il a mis la main sur un tout petit dossier qui prouvait, lettres et tableaux à l'appui, que avant son abdication de 1815, donc le 20 juin 1815, Napoléon avait fait vendre des titres en Angleterre en plus, donc ce qui veut dire que dès ce moment-là, il sentait bien que le moment du départ approchait et que par conséquent, il n'était pas complètement parti les mains vides ou les poches vides à Sainte-Hélène. Et partant de là, à l'époque, je travaillais avec Jacques Jourquin à la revue du Souvenir napoléonien et nous lui avons demandé de nous faire deux petits ou trois petits articles sur les finances publiques à l'époque napoléonienne et puis c'est parti comme ça. Et du coup, Pierre Brandat, qui est un travailleur inlassable, s'est lancé dans cette grande entreprise qui a donné un livre absolument extraordinaire qui, comme je le dis souvent, a énorme avantage de rendre son lecteur intelligent, c'est-à-dire que c'est une matière qui a l'air compliquée, que Pierre Brandat explique formidablement bien, quasiment sans chiffres, ce qui est quand même un exploit. Il y a, bon, pour ceux qui aiment les chiffres, il y a des tableaux à la fin du volume, je les rassure. Mais on se sent intelligent à la fin parce qu'on a tout compris, et y compris d'une matière qui aurait pu paraître obscure. Et surtout, on lit l'épopée napoléonienne, je dirais, sous un autre angle et avec des données qui font réfléchir bien sûr sur l'histoire napoléonienne, mais qui peuvent donner aussi quelques informations sur le présent. Et donc c'est un livre que je recommande évidemment à tous vos auditeurs, parce qu'il est vivifiant.
Pierre Brandat a donc réussi une sorte d'approche littéraire de l'économie.
Non, parce que ça reste quand même un livre qui, sur le plan des techniques, est extrêmement bien fait, enfin, techniques financières, techniques budgétaires. Mais cela dit, il a trouvé, et bon, ça fait partie de ses grandes qualités, il a trouvé une façon d'en parler qui fait qu'on n'est pas du tout, d'abord, rebuté, parce que c'est toujours intéressant. Vraiment, c'est toujours intéressant. Le découpage, en plus, est assez intelligemment fait. Et puis, c'est toujours porteur d'une information. Je suis parfois assez désolé de voir que, y compris des historiens connus, chevronnés, ayant pignon sur rue et parlant parfois d'histoire napoléonienne, en parlent avec des idées très générales concernant les finances et l'économie, alors qu'on dispose depuis 2 ans de cet outil-là qui permettrait d'en parler un peu plus savamment.
Or, les finances et l'économie, c'est la base du pouvoir, souvent.
C'est la base du pouvoir, et Napoléon l'avait compris, comme tout le monde, d'ailleurs, et comme ses prédécesseurs, et évidemment comme ses successeurs.
Et si je puis me permettre de rajouter un petit quelque chose au brillant exposé de Thierry Lenz, ce qui fait l'intérêt du livre de Pierre Brandat, c'est la contre-vision. Il ne s'intéresse pas seulement à l'argent français, il s'intéresse à l'argent anglais. Et il montre très bien, il y a un chapitre qui s'appelle « La cavalerie de Saint-Georges », qui était la dénomination que l'on prêtait à cet argent anglais qui corrompait toute l'Europe. Ça, c'est la vision française. Donc, il s'intéresse au fonctionnement du système des prêts et du chantage économique, il faut dire ce qui est, que faisait l'Angleterre, qu'exerçait l'Angleterre sur les ennemis de Napoléon, sur les différentes coalitions. Et il s'intéresse aussi aux représentations, en particulier françaises, qu'on a eues de cet épouvantable or anglais.
Pour parler des 100 jours, nous allons laissez la parole dans la prochaine séquence à l'auteur de l'ouvrage récent, Emmanuel de Varesquiel, sur les 100 jours. Merci.